Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes désormais bien installés chez vous ou au volant de votre voiture ou peut-être en train d'errer, de marcher pour rentrer chez vous avec Europe 1 dans vos AirPods peut-être, puisque l'application Europe 1 est très utilisée sur vos tablettes, vos téléphones. Europe 1 est partout et vous pouvez bien évidemment, chers amis, nous écouter partout, même au bout du monde, puisque, comme vous le savez, la libre antenne parfois est touchée par des témoignages de Nashville, de Tombouctou. On a eu aussi l'année dernière quelqu'un qui nous appelait d'Inde, en tout cas des Français qui sont aux quatre coins du monde et qui écoutent aussi cette libre antenne. Je pense aussi à notre ami au Japon qui fait des macarons tous les matins et qui nous écoute. Et j'ai un petit trou de mémoire sur son prénom, mais il va me revenir tout à l'heure. Je pense que Florian va se rappeler de notre ami du Japon qui nous écoute parce qu'il est très tôt pour lui. Il fait ses macarons à cette heure-là. Alors, Jocelyn, voilà, nous vous saluons, cher ami, ainsi que tous les autres qui nous écoutent ici en France, car bien évidemment, vous êtes cette communauté très importante de la Libre Antenne qui nous écoutait aux quatre coins du pays et qui est toujours présent. Et merci d'ailleurs pour votre fidélité, chers amis. Pour celles et ceux qui veulent me parler ce soir, qui veulent être écoutés, entendus et peut-être trouver des solutions à quelques petits nœuds de la vie quotidienne, ou peut-être des nœuds plus importants, 39-21, 50 centimes d'euros la minute, vous nous écrivez vos SMS au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, et puis vos mails à libreantenne@europain.fr, libreantenne@europain.fr, et sur notre groupe de parole Facebook, Yann Moix, Olivier Delacroix, La Libre Antenne, où vous pouvez adresser vos messages en privé à Julia et à Florian, qui vous rappelleront, vous le savez, dans les plus brefs délais. Et puis, je sais que Florian, sur Instagram, a trouvé certains de vos témoignages aussi. Donc, je pense que sur l'Instagram, mon Instagram ou celui de la Libre Antenne, vous pouvez aussi vous rendre et vous pouvez aussi nous contacter par là. Oui, moult chemins qui mènent à la Libre Antenne. Donc, n'hésitez pas, chers amis. Vous savez que je suis là pour vous écouter. Votre Libre Antenne du mercredi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous accueillons Josiane au 39-21. Bonsoir Josiane.
Bonjour Olivier Delacroix.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous Josiane?
Ça va un peu, ça peut aller, mais
oui.
Comme ça.
D'où est-ce que vous m'appelez Josiane?
De Maubeuge.
De Maubeuge, d'accord.
Oui, c'est à côté d'Aumont.
Oui, je vois où c'est. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi?
Je parlais à Florian hier.
Oui.
J'ai perdu ma soeur, ça fait 10 ans qu'elle est partie. J'ai perdu notre soeur, un frère. J'ai une soeur, elle a 53 ans. Je n'ai pas encore fait son deuil. Je ne sais pas ce qu'elle peut faire. Je n'ai pas encore fait son deuil. Je pense beaucoup, je pleure beaucoup. J'ai une deuxième soeur, c'est ma soeur aussi. Mais avec ma première, c'était ma chère soeur adorée. Parce que elle a soigné ma maman, c'était bien. Elle était gentille comme tout. Et oui. Moi, j'ai perdu mon mari. Moi, je me suis remariée. J'ai perdu mon mari à 55 ans.
Oui.
Là, je me suis remariée. Puis, il est bien, il est gentil, tout. Et là, c'est dur de perdre deux soeurs et un frère quand même. Mais ma soeur, quand mon ex est parti, j'allais faire la pelouse, tout ça.
Oui.
Elle faisait des gâteaux. Elle soignait ma maman. Ma maman a décidé aussi. Oui. Et hier, j'ai écouté l'émission, hier soir, c'était émouvant, avec la dame qui a perdu sa fille, que sa fille est partie dans le bois, j'ai pleuré. C'était émouvant pour cette dame-là.
Et oui,
pour
parce que un rien vous fait pleurer aujourd'hui, Josiane, visiblement.
Ah ouais, ouais. Ah ouais, hier, ça m'a fait émouvoir aussi, l'émission.
Mais vous n'êtes pas en train de, vous n'êtes pas en train de nous faire une petite dépression?
Non.
Non, sûr?
Non, c'est bon. Non, parce que je suis un peu émue, là.
D'accord. Vous vous levez facilement le matin? Vous n'avez pas du mal à vous lever? Vous n'avez pas envie de rester sous la couette?
Non, je pleure beaucoup. Je regarde la photo, puis je pleure.
Vous... D'accord.
Je pleure.
D'accord.
Puis là, j'ai un frère qui est malade aussi.
Oui.
Il a mal à l'estomac, il ne dort pas la nuit. Il a maigri de 8 kilos. Et j'ai plus qu'un frère et une sœur.
Mm-hmm.
Mon frère, il a 74 ans, le bien.
D'accord. Et vous, vous avez quel âge?
Il vient de me téléphoner aussi. Moi, j'en ai 69.
D'accord. Et alors, ce mari, en fait, c'était le second que vous avez perdu à nouveau?
Non, j'ai perdu mon premier mariage. Et après, j'ai connu quelqu'un, lui, il est bien.
D'accord. Donc vous êtes.
Je me suis mariée avec monsieur là.
D'accord. Et vous êtes avec lui encore maintenant?
Oui.
D'accord.
Oui, on est mariés.
Il est où là?
Il est en beau. Il n'écoute pas lui.
Il n'écoute pas, il n'aime pas trop écouter la radio.
Moi aussi. Bah lui, il regarde la télé. Tu les sois, je vous écoute. Hein.
D'accord. Vous, vous ne regardez pas trop la télé?
Non, pas beaucoup.
D'accord. Vous préférez la radio?
Oui, l'après-midi, j'ai dit à Florent qui fait la pelouse. Il a rigolé. Il a fait bon aujourd'hui. Hein.
Ah oui.
Alors, j'ai fait la pelouse.
Ah, vous avez fait la pelouse? Vous avez une grande pelouse?
Oui, j'ai un grand terrain. C'est moi qui le fais, mon mari, c'est lui qui la ramasse, après on a une déchetterie.
D'accord. Vous avez une déchetterie dans le, dans le village, enfin en tout cas aux alentours?
Oui, c'est dans le nord, oui.
D'accord.
À côté de chez moi.
D'accord. Vous aimez bien le Nord? Vous vous y trouvez bien?
Bon, ça dépend.
Pourquoi?
Parce que je suis embêtée avec un voisin. Alors.
Ah, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai mal aidé, elle a 1m60, il veut que je le coupe. Alors du coup, j'ai passé au tribunal. Bon, je ne dis pas mon avocat comment qu'il y a. J'ai passé aussi, je peux le dire, j'ai passé à un avocat.
Oui.
C'est pour me défendre quand même. Hein. Et mon avocat, il est venu, il a dit, c'était bien propre, on l'a bien coupé. Et il a dit, on n'a pas... Parce que lui, il veut l'arracher tout l'allée. Parce que moi, j'ai un voisin derrière, vous savez, derrière chez moi. Puis il est méchant et tout. Hein.
Ah, il est méchant.
Oh, oui,
qu'est-ce qu'il vous fait?
Bah, il disait des gros mots, des insultes et tout ça. Bah, la police, elle est déjà venue là. Hein. Il m'a déjà frappé. Hein. Quand j'étais tout seul, c'est moi qui faisais l'allée. C'était dur hein, pour une dame. J'ai coupé l'allée et tout ça.
Bien sûr.
Sa dame, elle est partie, mais lui, il est méchant.
Il est méchant, alors, nous, gratuitement?
Ah oui. Ah oui, gratuitement. Moi, je ne réponds pas. Alors, je suis devant mon avocat a dit de ne pas répondre, de faire des photos. Alors, je lui ai fait de mon premier mari, parce que mon mari a eu des enfants. Hein. Et on a fait des photos pour me donner à l'avocat.
D'accord. Bah, de toute façon, il faut se défendre.
Ah oui, l'avocat, il a dit que c'était bien propre. Bah, il est venu chez moi aussi. Il est venu voir. Il a dit qu'il ne faut pas couper. On l'a coupé après, parce qu'il faisait chaud. On a entendu qu'il faisait moins chaud pour la couper. Et puis, l'avocat a dit que c'était bien propre, parce que moi, j'aime bien être propre. J'aime bien qu'il n'y ait rien qui traîne,
vous savez. Ouais, vous êtes maniaque un peu. Vous êtes maniaque un peu.
Oui, c'est vrai. Oui.
C'est bien.
Oui, j'aime bien que ça soit
rangé. Il faut ranger les choses. Moi aussi, j'aime bien que les choses soient rangées.
Ah oui.
Bon, après...
Je vous ai vu à la télé. Je dis, je vous ai vu à la télé, mais je ne sais plus quelle émission que c'était.
Ah, aujourd'hui?
Non, il y a déjà un petit moment.
Ah oui, il y a un petit moment. Bah, c'était peut-être l'émission sur France 2, non?
Oui, c'est ça.
C'est ça.
J'ai vu sur mon journal, le TLZ, le journal que je prends, le programme, et puis j'ai regardé, c'était marqué votre nom. Du coup, j'ai dit, moi je vais regarder, puis je vous ai vu.
D'accord.
Alors, vous êtes bien gentil, ça se voit.
Merci. Ça revient fin janvier.
Vous êtes en vacances, ça aussi.
Pardon?
Si. Je dis, vous êtes gentil, vous parlez bien, vous remontez le moral des gens.
Ben, il faut. Hein. Il faut remonter le moral des gens. Il y en a tellement qui l'ont pas.
Déjà, avec la dame, on va. Pauvre maman. Bon. Si elle m'écoute, je ne sais pas si elle est en train d'écouter. Bah, et je lui souhaite un bon courage, cette dame.
Mais oui.
Perdre un enfant, c'est dur, vous savez.
Oui, puis dans ces conditions-là, vous savez, là, c'est franchement horrible.
Elle était jeune, la fille, qui est partie.
Je crois qu'elle avait 25 ans, 27,
oh, le,
27
le, le,
ans.
Le,
oui, elle était jeune. Oui.
C'est jeune. Pour le moment, perdre un enfant, c'est jeune.
Bon, il va falloir, vous, hein, Josiane, que... alors, j'allais vous dire, essayez de moins pleurer. Vous voyez, essayez de penser au bon moment que vous avez vécu avec ceux que vous aimiez, hein, ce que vous aimez, même parce que vous les aimez
moi,
toujours.
Moi, il est parti brutalement, bien. Moi, il est parti le 8 janvier, du coup, je vous interromps. Moi, il est parti le 8 janvier en 2003, j'avais 55 ans.
Oui.
Il demande la cigarette, hein. Pas d'alcool, parce qu'il ne veut pas d'alcool. Hein.
Oui.
Il demande la cigarette.
Mm-hmm.
Et mon petit-fils, il avait 3 ans. Ouais, parce que j'ai un fils, moi, j'ai un fils qui ne me parle plus. Hein.
Il vous parle
moi,
plus
je ne sais pas. Non, j'ai deux petits-enfants que je ne connais pas.
Ah bon?
Oui. Et... j'ai un petit-fils à 24 ans, mais il ne vient pas. Là, je suis quand même mis en arrière.
Il habite où, ce petit-fils?
Pas loin de chez moi, pas loin de chez moi.
Et il vous croise, il vous croise, il vous parle pas?
Non.
Vous le voyez, vous le voyez de temps en temps?
Non, il ne vient plus. Plus tard qu'il a sa copine, non. Là, il y a une petite-fille, je suis arrière grand-mère, alors 4 ans. Et je l'ai eu, je l'ai eu pour coucher, tout ça, et après, je l'ai plus. Alors, ça fait mal.
Mais oui,
moi, j'aime bien les enfants. Ouais. J'aime bien. Moi, j'en ai eu un, mais j'en aurais eu deux, j'ai perdu une petite fille.
Bon. Bon, en tout cas, gardez le moral, hein, Josiane.
Oui.
Hein, il faut garder le moral, il faut toujours, vous savez, aujourd'hui, vous arrivez à un âge quand même où vous connaissez la vie, hein, vous savez comment ça se passe, on traverse des moments, hein, des épreuves.
Oui, c'est une période, oui, c'est vrai.
Voilà, et puis il y a aussi d'autres beaux moments. Vous voyez, aujourd'hui, vous me dites, c'était une belle journée, j'ai tondu la pelouse. Il faisait
ouais,
bon,
Flora,
et vous voyez, ce sont des
à votre collègue.
Voilà, ce sont des bons moments aussi où on prend un petit peu de bonheur simple. Donc ça, c'est bien.
Oui,
hein
oui.
Et il faut, il faut vraiment apprécier tous ces moments-là.
Moi, je vous écoute tous les soirs. Je ne veux pas l'émission, je l'écoute.
Eh ben, c'est très gentil. En tout cas,
j'ai regardé là, puis je dis, oh, ça va commencer.
Hmm ben, c'est très bien. Merci d'être fidèle en tout cas à notre émission, ça me fait très plaisir. On vous embrasse bien fort en tout cas, Josiane, merci.
D'accord, et moi aussi, je vous souhaite un bon retour et au revoir. Merci.
Au revoir, Josiane.
Au revoir, merci.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est 23h22, vous êtes sur Europe 1. Si vous arrivez juste maintenant, c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. 7 jours sur 7, 23h, 1h, chers amis, vous pouvez nous appeler au 3921. On accueille Philippe maintenant. Bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Merci de m'accueillir.
Je vous en prie. D'où nous appelez-vous Philippe?
Alors, j'appelle de Bretagne.
Oui, et quel âge avez-vous?
J'ai 55 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Philippe? Dites-moi.
Alors, moi, je voulais pousser un coup de gueule contre l'éducation nationale.
D'accord.
Et contre leur fonctionnement par rapport aux contractuels.
Alors,
ils disent qu'ils ont du mal.
Et, oui. Et expliquez-nous les contractuels, le statut d'un contractuel. C'est, il fait des remplacements, c'est ça, à droite, à gauche?
Voilà, donc
d'accord.
Un contractuel dans l'éducation nationale, c'est comme un intérimaire dans le milieu du privé.
D'accord.
Donc on va faire appel à lui si on a besoin, puis si on n'a plus besoin, eh ben on s'en sert plus.
D'accord. Vous êtes contractuel, donc, vous?
Je suis contractuel. Et donc pour avoir... Donc, j'ai 55 ans, j'ai travaillé pendant 30 ans dans le secteur privé, et là, depuis 3 ans, je suis contractuel dans
D'accord.
l'éducation nationale.
Mmh.
Bon, c'était une volonté de vouloir chercher à transmettre un petit peu mes acquis.
Oui.
Et donc, j'ai eu cette opportunité de rentrer, de rejoindre l'éducation nationale. Bon, voilà. Et la différence déjà quand on est intérimaire ou quand on travaille avec des agents d'intérim, quand un salarié travaille correctement, en règle générale, les entreprises essayent de favoriser leurs employés en leur permettant de travailler continuellement. À l'éducation nationale, qu'on travaille bien ou qu'on ne travaille pas bien,
oui.
Ils s'en foutent. Voilà, il y a une durée de contrat, une fois que le contrat est terminé. S'ils n'ont plus besoin de la personne, eh ben le contrat n'est pas reconduit et puis vous allez rejoindre le service de Pôle emploi.
Oui. Alors, que critiquez-vous là-dedans? Parce que finalement, il y a une mission, mettons, de 4 mois que vous effectuez.
Oui.
Et cette mission est bien définie. Hein. Je vous pose des questions que celles et ceux qui nous écoutent doivent se poser. Et au bout de 4 mois, cette mission se termine.
Oui.
Donc, vous, vous semblez critiquer le fait que vous travaillez bien ou pas, il ne vous garde pas, en fait. C'est ça ?
Alors, voilà. Donc, bon, je vais faire un constat d'une manière générale au départ.
Oui.
Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail, au moins me concernant.
Oui.
Hein, je vais parler de mon cas. Donc, ça fait 2 ans que je suis auprès de l'Éducation nationale. Donc, cette année, en juin 2022, mon contrat s'est terminé. Bon, il s'est terminé, donc je suis inscrit auprès de Pôle emploi. Après, donc, mes anciens collègues de travail me disent que, de toute manière, sur l'Académie de Rennes, ils allaient avoir besoin d'enseignants dans la matière ou les matières que j'enseigne. Mmh. Donc, j'attends fin août. Je me dis, bon, bah, l'Académie va me recontacter. Parce qu'a priori, ils recherchent quand même des enseignants. Donc, le 31 août passe. Début septembre arrive, je recontacte mes collègues en leur disant « bah tiens, c'est bizarre, ils n'ont pas fait appel à moi ». Ils me disent bah, « c'est bizarre parce qu'on sait qu'il y a des postes à pourvoir ». Bah, je dis « ça m'étonnerait parce qu'autrement, l'académie m'aurait quand même contacté pour me dire qu'il y a un poste de vacant à tel endroit ». J'ai fait la démarche auprès d'un établissement que mes anciens collègues m'ont cité. J'ai contacté l'établissement, je le contacte le mercredi, c'était il y a 15 jours. Je contacte le lycée le mercredi. Le jeudi matin, j'étais reçu par le proviseur. Et le jeudi matin, j'étais reçu par le proviseur. Et le vendredi, je commençais.
D'accord.
L'éducation nationale disait, et après, il y a encore beaucoup de postes à pourvoir, ils disent qu'ils recherchent des contractuels. Quand ils ont des contractuels, ne font pas appel à eux. C'était mon cas. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les contractuels, tous les ans, ils sont notés. Il y a une évaluation qui est émise par le chef d'établissement ou l'inspecteur d'académie. Dans mon cas, j'ai eu 2 années consécutives un avis favorable. Donc ça veut dire qu'a priori, je faisais correctement mon travail.
Oui.
A priori. Malgré cela, si je n'ai pas fait la démarche de contacter un établissement ou l'établissement, je serais toujours à Pôle emploi. Le lycée serait toujours à la recherche d'un enseignant. Enseignant, quand on commence en tant que contractuel, on n'a strictement aucune formation. Nous sommes jetés, alors là, en plein milieu de l'océan, hein, faut... Voilà, vous avez les connaissances, bah débrouillez-vous pour faire les cours. Vous n'avez pas de support, on ne vous dit pas ce qu'il faut chercher à transmettre auprès des élèves. Bon, la pédagogie, alors ça c'est encore autre chose. Il faut savoir être tout de suite capable de transmettre ses connaissances. Et on devrait avoir quand même si on est contractuel, un début de formation.
Une feuille de route, en tout cas, quelque chose de cadré.
Quelque chose de cadré, pour savoir un petit peu où on va.
Qu'est-ce que ça traduit pour vous, le fait qu'il y ait besoin de professeurs dans certains établissements et que, finalement, vous en êtes l'exemple, l'académie, lorsque vous les contactez, vous dit « bah non, on n'a pas besoin ». Il y a un manque de communication, il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail à l'académie quand on vous répond qu'il n'y a besoin de personne.
Ben, j'arrive même plus à les comprendre, en fait. C'est là où je ne comprends pas. Moi, donc là, quand j'ai été pris auprès de cet établissement, auprès du lycée, automatiquement, ce qui est tout à fait légitime, le proviseur a contacté l'inspecteur d'académie. Il lui a renvoyé une réponse très, très positive me concernant. Quand j'ai vu le proviseur adjoint donc le lendemain, il était en communication avec l'inspecteur d'académie, qui me connaissait parce que je l'avais déjà rencontré à 1 ou 2 reprises. Ils étaient en train de débattre me concernant. Et a priori, les avis étaient plutôt favorables.
Oui.
Et je ne comprends pas que dans le personnel de l'académie, je ne sais pas, qu'ils n'aient pas un fichier en disant bon, « on a telle personne, on a eu tel avis, on a tel poste ». Eh ben, qu'on lui propose au moins telle mission. Enfin, je ne sais pas comment il fonctionne.
D'autant plus que nous avons un ministre qui, et pas mal de nos dirigeants politiques, hein, qui clament que nous manquons d'enseignants en France.
Oui, mais il ne faut rien pour les garder.
Ouais.
ou les inciter à vouloir continuer dans cette formation, enfin dans cette profession, pas dans cette formation, dans cette profession.
Vous continuez parce que vous avez la vocation finalement, vous aimez ce boulot.
Oui, j'aime ce travail. Oui. Je me remets tous les jours en cause pour essayer de progresser et puis essayer d'intéresser les élèves à la matière ou aux matières que j'enseigne.
Oui.
C'est pas de la routine, enfin voilà.
Il est certain que cela peut décourager certains de vos collègues, hein, vacataires comme vous, contractuels, de voir que finalement il y a pas une énergie folle pour leur trouver du travail, leur trouver des missions et aller combler les trous nombreux. Hein, dans l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui manquent de professeurs, en tout cas où il y a, on fait la rentrée, puis d'un seul coup, il n'y a pas de prof d'anglais, il n'y a pas de prof de maths, il n'y a pas de prof de techno, c'est très étonnant ce que vous nous racontez, très étonnant.
Oui, mais moi, dans le lycée où je suis, dans la fonction que j'occupe, ou dans les matières que j'enseigne, il y avait deux postes à pourvoir. Pour l'instant, j'en ai pris un.
Oui, et l'autre
j'enseigne. Et l'autre, l'autre, il est toujours à pourvoir. Il n'y a personne pour
d'accord.
l'instant.
D'accord. Et c'est un poste de quel type d'enseignement ?
Donc, moi, je suis enseignant en lycée professionnel.
Oui.
Donc, moi, j'ai choisi de favoriser les élèves qui vont de la classe de seconde à la terminale, parce que, bon, il y a un examen au moins pour les élèves de terminale. Mais dans l'autre poste, ce sont des élèves qui suivent, en l'occurrence, des CAP, plus d'autres matières, là, ils n'ont pas d'enseignants, au moins sur une partie du programme.
Et comment font-ils les élèves en fin d'année, là, lorsqu'il faut passer des examens ? Comment se débrouillent-ils ? Est-ce que l'éducation nationale leur fait passer quand même la matière où ils n'ont pas eu de professeur ? Ah oui, carrément.
Oui.
Donc il faut qu'ils se débrouillent tout seuls ?
Ah ben, il faut qu'ils se débrouillent. Hein. Après, il y a une épreuve nationale. Ils n'ont pas eu d'enseignants, c'est dommage. Voilà. Enfin bon, ils ne vont pas se poser la question de savoir s'il y avait eu un enseignant. Après, ça ne va pas faire partie de leur préoccupation. Si je peux encore rebondir, c'est un exemple, j'ai eu l'information hier, donc elle est toute récente, dans un établissement privé de la région Bretagne, toujours dans la matière que j'enseigne, ou les matières que j'enseigne, il y a eu une contractuelle qui avait été embauchée pour enseigner, elle a fait 15 jours. Au bout de 15 jours, elle a démissionné.
Pourquoi ?
Parce qu'elle n'était pas du tout préparée à exercer cette profession.
Oui. C'est très étonnant ce que vous nous racontez quand même, que des lycées, enfin en tout cas des établissements, hein, même des établissements donc, d'enseignement professionnel, aussi bien que des lycées, on ne dit pas CES maintenant, on ne dit plus CES, on dit autre chose. Mais c'est très étonnant d'apprendre qu'il y a des profs qui arrivent et qui sont totalement livrés à eux-mêmes, à qui on ne donne pas la moindre indication finalement. Donc ça c'est très curieux.
Ah mais c'est une réalité. Moi quand j'ai commencé... J'ai commencé le 2 mars 2020 auprès de l'Éducation nationale. Le 16 mars 2020, il y avait le confinement. Je vais dire heureusement, parce qu'autrement, je ne terminais pas le mois de mars. Quand j'ai rejoint le premier établissement, ça n'a pas été compliqué, j'avais une feuille blanche. J'ai discuté avec la direction, ils m'ont répondu, il y a un référentiel, il faut s'en servir. Oui, d'accord, il y a un référentiel, mais c'est quelque chose qui est très vague. Ça ne vous donne pas des supports, ça ne vous dit pas comment il faut faire. Vous n'êtes pas du tout accompagné. Vous discutez, j'avais discuté avec un collègue. Il me dit, t'as occupé telle fonction, donc tu sais faire, donc c'est bon. Dans le milieu privé, j'ai des connaissances, et un savoir-faire. Dans le milieu de l'éducation, c'est une nouvelle mission, je ne sais pas faire. Totalement abandonné. Oui, allô ?
Ah oui, je suis là, je vous écoute.
Ah oui, oui, oui.
Non, mais ça me laisse pantois. Écoutez, merci en tout cas. Algi, concluez, on n'a plus qu'une minute, mon cher Philippe.
D'accord. Non, mais c'est ça, là, je suis en train de me battre par rapport à mon contrat, puisque Ça, enfin, je n'ai que des soucis avec l'éducation nationale. Enfin, ce n'est que problème après problème.
Oui, en gros, c'est un peu le souk à l'éducation nationale, j'ai l'impression, moi. Non ?
Voilà. Ouais. C'est une usine à gaz.
Oui, c'est une usine à gaz. Et ça fait un bout de temps que ça dure.
Oui, alors enfin, avant, bah oui, je ne m'en rendais pas compte. Mais, bah oui. mais là.
Mais il ne faut pas oublier que c'est avec les sous des Français, hein, tout ça.
Ah oui, j'en suis tout à fait conscient.
Et ça, c'est assez gênant, parce que ça fait un bout de temps qu'on soulève sur cette antenne ou ailleurs les problématiques liées à l'éducation nationale. Enfin, voilà, ce que vous nous dites ce soir est tout à fait anormal. D'abord parce que je trouve qu'humainement, on n'a pas à traiter des gens qui ont cette vocation de vouloir enseigner. Et ce n'est pas parce qu'ils sont vacataires qu'on doit disposer d'eux un peu comme des pions. Et puis, secondo, si en plus on ne répond pas à la demande des établissements qui manquent de professeurs alors qu'il y en a sur le marché du travail, bah on se demande à quoi elle sert, cette éducation nationale, finalement.
Ben, c'est tout l'initiative qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ils gèrent les dossiers ?
Bah en tout cas, c'est mal géré.
Je ne sais pas.
C'est mal géré. La preuve en est, c'est que vous nous racontez des choses qui sont concrètes, qui sont dans la réalité. Alors, je ne sais pas, vous êtes en Bretagne, donc je ne sais pas si l'Académie de Bretagne, il y a un secteur dédié aux vacataires. Mais en tout cas, il y en a sûrement un. Et je ne sais pas ce qu'on fait dedans, mais peut-être que, je ne sais pas, il y a une pause café qui dure trop longtemps ou il y a un problème. Il y a un problème. Donc, voilà, avis à la population, puisque, et surtout la population bretonne, sont quand même avec vos impôts que toute cette machine à gaz tourne. Et puis au bout de la chaîne, ce sont nos enfants. Nos enfants à qui on doit un enseignement. Ce sont nos enfants qui vont passer des examens, ce sont nos enfants qui vont apprendre. Donc si on se fout que... Bah comme ça arrive, hein, vous n'êtes pas le premier à nous parler de ça, Philippe, bah que parfois, pendant 3 mois, pendant 6 mois, voire même, parce que parfois, en début d'année, un professeur est en arrêt de travail pour une dépression ou quoi que ce soit, et puis bah, il n'est pas remplacé. Ça, on l'a entendu 20 fois. Donc, voilà, vous en êtes la preuve.
Bah, oui, parce que bah, faut retrouver un candidat. Faut réussir. Ben alors, quand ils en trouvent un, après, le problème, c'est qu'on n'est pas formé. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent très vite. Et ce n'est pas une formation de 4 jours, comme a proposé de faire notre nouveau ministre de l'Éducation. Enfin, a priori, la formation a duré qu'une journée, donc on va parler de théorie. Mais ce n'est pas comme ça qu'on forme un enseignant.
Ben non, pas en une journée, en tout cas. Pas en une journée.
Faut pas qu'il oublie, enfin, je pense ne pas dire trop de bêtises, je pense que 80% des enseignants doivent intervenir soit au niveau collège, soit au niveau des lycées. Je pense que dans les études supérieures, il y a de moins en moins, il ne doit pas avoir beaucoup de contractuels, ça va être des intervenants extérieurs qu'on va faire venir, mais ça ne va pas être des contractuels. Donc c'est un public qui est fragile, qui rencontre beaucoup de difficultés. Et on ne va pas former les enseignants. On va les abandonner complètement face à un public avec des difficultés.
Et un public qui a des difficultés peut se dissiper, on le sait. Hein, et donc, c'est une marmite qui boue comme ça, parce que des élèves qui ne reçoivent pas, je veux dire, l'enseignement approprié, c'est-à-dire avec un professeur qui se sent un peu fragilisé, eh bien ça crée souvent des classes où c'est un peu le souk et où personne n'apprend rien. Merci en tout cas, Philippe, pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Puis bah, je vous souhaite bon courage. Hein.
Merci Olivier, bonne soirée.
Je vous en prie, au revoir.
Bonne continuation, au revoir.
Message au 739-21. La plupart des contractuels ont été formés en 4 jours et avec seulement une licence où les profs titulaires, diplômés d'un CAPES, ne sont pas embauchés. Cette rentrée est une véritable catastrophe. L'éducation nationale va de pire en pire. C'est un message au 739-21. Nous accueillons Jeanne maintenant. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Jeanne ?
Du Pays Basque.
Quelle chance.
Oui,
ce
oui,
beau pays basque.
Oui, c'est bien agréable, c'est vrai. Sans être chauvine, c'est quand même une belle région.
Ah, très belle.
Je reconnais.
Je suis amoureux de cette région. Mais bon, comme bon nombre de Français.
Oui. Après, il y a des régions ailleurs aussi qui sont magnifiques.
Bien évidemment. Bon, mais la vôtre est quand même particulièrement agréable et jolie. Et il y a aussi tout un tas de choses. Il y a des vagues.
Il y a la montagne. Oui,
ouais.
La montagne, la campagne.
Et puis, il y a ce petit accent du sud-ouest, mais dans le Pays basque, qui chante un peu plus que les autres. Et voilà. J'aime beaucoup votre région, en tout cas, Jeanne.
C'est parfait, mais je suis ravie.
Dites-moi ce qui vous amène.
Ce qui m'amène, oui. Bon, je voudrais m'exprimer sur un sujet concernant les agences de rencontres et agences matrimoniales. Voilà.
D'accord.
J'ai vécu une expérience désastreuse, que je vis actuellement encore, parce que ce n'est pas terminé, mais bon. Et qui, à mon avis, mérite vraiment d'être dénoncée. Voilà. Alors, je ne me permettrai pas, ça je tiens à le préciser, je ne me permettrai pas de généraliser, car j'ose espérer que ces agences n'agissent pas toutes de la même façon. Néanmoins, je pense qu'il est indispensable et nécessaire de mettre en garde les personnes qui auraient l'intention de faire appel à ce genre d'agence.
Bien sûr, vous avez raison, car la solitude est à prendre avec le plus grand sérieux, parce que c'est tout de même un fléau. Oui, c'est un fléau parce que beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui sont seules et malgré la démultiplication des applications de rencontres, et ça paraît encore difficile de trouver l'âme sœur ou en tout cas de trouver même ne serait-ce que qu'un ami, une relation.
Voilà, tout à fait. Donc, alors, à mon avis, c'est vrai que ces gens-là qui pourraient s'engager dans une situation hasardeuse. Voilà, c'est un peu mon expérience que j'ai vécue, mais je pense que je ne suis pas la seule, je ne suis pas un cas isolé.
Non, mais nous avons déjà eu de nombreux témoignages allant dans ce sens, Jeanne. Donc, racontez-nous votre histoire.
Mon histoire, l'historique, c'est-à-dire, effectivement, ça fait plusieurs années que je suis seule. Et puis, je me suis occupée de ma maman. Ma maman étant décédée, la solitude est quand même plus... qui pèse un peu, malgré que j'ai des enfants, des petits-enfants, et je m'entends très bien, tout se passe très très bien, mais voilà, la solitude, l'échange, la solitude me manque, me pèse vraiment.
Oui.
Donc, j'ai faire des rencontres, c'est quand même compliqué, c'est pas facile. Donc, je ne voulais pas me diriger vers des sites de rencontres sur Internet.
Oui.
Donc, j'ai quand même effectué quelques recherches. Et j'ai découvert qu'il existait dans ma ville une société dirigée par une personne qui se présentait comme expert en rencontres sérieuses, une professionnelle de la relation de confiance.
Oui.
Donc, la démarche était difficile, c'est pas si aisé que ça, mais c'était un désir de rencontrer quelqu'un, donc quelqu'un de sérieux. Donc, je me suis dirigée vers ce genre de site parce que je l'imaginais sérieux. Auquel on pouvait se fier.
Oui.
Et je supposais qu'il devait certainement être plus apte à satisfaire ma demande, qui était de rencontrer une personne fiable, honnête, et qui pouvait me correspondre. Et en fait, je suis confrontée à une personne Pour moi, son intérêt, c'est disons qu'il se prétend être conseillère, mais qu'il ne l'est absolument pas.
Mmh.
Absolument pas. Le premier entretien, je vais vite essayer de faire assez rapidement dans l'historique. J'ai eu un entretien avec elle, c'était déjà depuis le mois de juin 2021 quand même.
Oui.
Cette petite histoire dure. Depuis, j'ai eu un premier entretien. Donc, bien sûr, cette personne m'a tenu un discours très élogieux concernant son agence. Plus sérieux qu'un site, confiance, fiabilité, honnêteté, accompagnement. Et puis, elle n'hésite pas à mettre, bien sûr, en avant son rôle très important de conseillère qui n'existe pas sur les sites d'Internet. Voilà.
Homme ou femme ?
Une femme.
Une femme, d'accord.
Cette personne, c'est une femme. Et dès ma première entrevue, c'est J'étais sceptique, mais c'est ça que je m'en veux. Je m'en veux énormément parce que j'étais sceptique.
Qu'est-ce qui vous a rendu sceptique, Jeanne, dès le début, comme ça?
Dès le début, alors, c'est vrai que j'ai plutôt un tempérament un peu incrédule, donc je suis assez lucide, enfin. Donc, j'ai senti, puis je perçois peut-être un peu plus les choses. C'est ce qu'on me dit, que je suis une sorcière, mais gentille, une gentille sorcière, ouais, quand ouais. même. Et j'étais sceptique parce qu'elle devait me présenter donc, sur son ordinateur toutes les personnes qui résidaient dans ma région.
Oui.
Et en fait, elle m'a seulement montré deux profils qui étaient censés être sur Bayonne. Alors, je n'étais pas convaincue, mais sachant que je n'étais pas encore inscrite, j'ai eu la faiblesse de croire que c'était par discrétion, effectivement. Elle n'avait pas à divulguer les noms des personnes ou à me montrer les personnes, sachant que je n'étais pas encore inscrite. N'avais pas signé le contrat. Donc, je l'ai compris, je l'ai interprété comme ça, mais avec beaucoup de doutes quand même. Et la deuxième, donc on a pris un deuxième rendez-vous. Au deuxième rendez-vous, cette personne est arrivée sur le lieu sans son ordinateur. Alors, selon ses propos, c'était la première fois que cet incident se produisait. Elle a oublié son outil de travail. Et là, bonjour, le sérieux. Enfin, vraiment, Et là, j'ai vraiment... pour moi, cette situation a été révélatrice. Vraiment, alors, j'ai appelé une amie qui était au courant. Elle était la seule. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, non, moi, j'ai des gros doutes. J'ai des soupçons. C'est pas normal qu'une personne vienne à un rendez-vous, oublie son ordinateur. Donc, elle me dit, effectivement, c'est pas normal. Mais bon, elle m'a encouragée quand même à continuer ma démarche en me disant, ça peut arriver à tout le monde. Il y a une erreur un peu... Tout le monde peut faire une erreur. Bon. Donc, j'ai accepté un troisième rendez-vous. Donc, ce troisième rendez-vous, j'entends toujours le même discours, hein, donc très élogieux. Et ce qui me surprend, c'est que paradoxalement, je n'ai pas manqué de discernement parce que j'avais des doutes. Les propos de cette personne ne m'ont pas du tout subjuguée, ne m'ont pas ni charmée, ni impressionnée, et absolument pas convaincue. Mmh. Et néanmoins, je commets l'erreur de signer le contrat. Enfin, je ne peux m'en prendre qu'à moi, mais c'est une grosse erreur. Bon, alors après, je pense que ça venait de... C'était ma démarche qui me paraissait honnête, c'est pas qu'elle me paraissait, elle était vraiment honnête, et je pense que j'avais vraiment un profond désir et un espoir de rencontrer une personne, donc je pense que c'est ça qui avait pris le pas.
Bien évidemment, voilà. Bien évidemment, c'est ce qui avait pris le pas.
Voilà, je pense que c'est ça. Donc, j'ai quand même signé, là, donc au mois de juillet de l'année dernière, j'ai signé le contrat, mais alors j'ai été formelle, catégorique. Je souhaitais rencontrer une personne résidant dans un périmètre très proche de mon domicile.
Oui.
Condition vraiment essentielle pour envisager une signature. Ça, j'ai été claire, nette, vraiment. Et cette personne, mais sans scrupule, vraiment, droit dans les yeux, sans hésitation, me dit, elle m'assure qu'elle possédait un fichier qui constituait de nombreuses personnes correspondant sans aucun doute à ma demande et attente et bien entendu habitant sur le BAB. Voilà. Donc, j'ai signé, j'ai fait un règlement. Cette personne a attendu bien, elle le fait quand même systématiquement que ce règlement soit encaissé, que le chèque soit encaissé. Et là, dès que le chèque est encaissé, on peut accéder à un fichier où il y a
des profils.
Des profils, voilà. Il y a des profils. Alors, ces personnes-là, il y a photo ou pas photo et un descriptif, ce qui est normal. Mais donc, par contre, leur lieu de résidence, le lieu où ils habitent ne figure pas sur ces fichiers. Hein. Et c'est un fichier qu'on ne peut absolument pas contacter directement ces personnes. Il faut passer par la conseillère.
En gros, voilà. Ce fichier, il peut être complètement fictif, complètement
Exactement.
Inventé pour la plupart. Vous n'avez
voilà.
aucun moyen de vérifier.
Voilà.
Ça, déjà, ça a dû quand même aiguiser votre...
Oui, nous interpeller.
Parce qu'un fichier... Vous voyez que des gens sur des sites... de rencontres, ne mettent pas leurs photos,
oui.
ne mettent pas trop de renseignements parce que accessible à beaucoup de personnes, mais là, dans une agence donc de rencontre avec le sérieux affiché, c'est très curieux d'emblée de vous proposer des personnes où il n'y a ni photo, ni renseignement tel que le lieu où ils habitent, en tout cas au moins la ville, la région. Enfin,
voilà,
c'est...
Oui.
Il n'y avait quoi ? Il n'y avait qu'un prénom, 1m80,
non, il y avait voilà, une description, ce qu'ils faisaient dans la vie quand même, leur métier,
oui.
Leur signe astrologique. Bon, enfin, il y a un petit descriptif. Il y a certaines personnes qui ont voulu donc, afficher leur photo, d'autres non. Ça, c'était, moi, elle m'a proposé aussi. Hein, ça, c'est, est-ce que vous voulez qu'on vous mette votre photo ou pas ? Donc ça, c'est... J'ai trouvé, bon, non, bah, on veut, on veut pas, bon, peu importe. Il y avait un descriptif, mais le lieu de résidence ne figurait pas dans le descriptif. Donc, cette personne m'a mise en relation. Alors, ça, c'était le 26 juillet, donc l'année dernière. Hein, première relation avec une personne qui résidait, mais provisoirement à Bayonne, provisoirement. Donc, j'ai eu donc un contact avec cette personne, et c'est une personne très correcte, mais qui ne me convenait pas, enfin voilà, qui ne me correspondait pas. Donc, dès le lendemain, je lui ai envoyé un message en lui précisant que cette personne ne me correspondait pas, et que j'avais, dès le lendemain, j'ai tous les courriers, tous les échanges, hein, tout est écrit, et je lui ai précisé que j'avais quand même de forts doutes sur le nombre de personnes résidant dans la région.
Oui.
Voilà, donc ça a été dit. On a des échanges quand même qui sont assez virulents, hein, je le dis, parce que c'est impensable. Je n'arrive pas à comprendre comment ces agences-là continuent à fonctionner. Je comprends pas, vraiment.
Parce que vous avez payé combien là ?
Moi, j'ai payé 1200.
Ah oui, c'est beaucoup d'argent, dites donc.
1200. J'ai rencontré donc... plusieurs personnes, j'ai eu des personnes au téléphone, y en a une personne qui me dit 1800. Une autre personne donc, qui m'a appelée, me dit écoutez, je suis très étonnée, Madame Intel m'a adressé vos coordonnées, mais je suis déjà en relation avec quelqu'un. Et il me dit mais je trouve que c'est quand même anormal, je vais l'appeler. Parce que c'est une situation qu'il estimait non conforme à la règle de la bonne conduite. Il m'a dit, mais elle m'a également précisé, cette personne-là m'a également précisé qu'il payait des mensualités. Alors, je n'ai pas demandé le montant, hein, parce que c'était juste au téléphone, hein, on a échangé qu'au téléphone. Il m'a également précisé qu'il payait des mensualités correspondant à un crédit de voiture haut de gamme.
Oui, alors là, on peut dire quand même, Jeanne, que c'était de plus en plus... étrange la manière de fonctionner de cette agence. On va marquer une pause et laisser l'info passer, si vous voulez bien. Et puis, vous allez continuer à me raconter ce qui s'est passé ensuite, d'accord ?
D'accord.
À tout de suite, Jeanne. Il est minuit passé de 4 minutes et où que vous soyez, vous savez que vous pouvez composer le 39-21 si l'envie vous vient de me parler, chers amis. Je suis là pour vous écouter. Pour le moment, nous sommes avec Jeanne. Jeanne qui nous conte eh bien sa mésaventure avec une agence de rencontres peu scrupuleuse. Jeanne, alerte les auditeurs ce soir sur ce type d'agence, car la solitude... On l'a dit avec Jeanne, est un véritable fléau. Et lorsqu'on recherche l'âme sœur et que l'on se dirige vers ce type d'agence où on paye relativement cher, puisque vous nous avez dit, Jeanne, avoir payé 1200 € à la signature de ce contrat, c'est tout de même une somme. Donc, vous me racontiez que vous avez même été orienté sur un homme qui a fini par vous dire qu'il était déjà en relation avec quelqu'un d'autre et qu'il payait chaque mois donc une cotisation à cette agence comme une traite de voiture. Ça devait être quand même cher pour lui aussi.
Oui, c'est ce que j'ai bien compris. S'il me l'a précisé, effectivement, il devait quand même trouver des mensualités assez lourdes
et
pour un service, des prestations qui n'existent pas, hein, vraiment, parce que...
Et les hommes à qui vous avez parlé, en tout cas que cette agence vous a proposé, vous
ils
avez
ont
noté.
Tous des griefs. Ils ont tous des griefs. Ils ont tous des griefs.
Tous des griefs. Et ils ne correspondaient visiblement pas à vos critères.
Ah, il ne correspondait pas. Après, j'ai eu des personnes. Alors, toutes les personnes qu'elle m'a présentées, c'était des gens qui habitaient à Saint-Laurent-de-Bretagne, enfin, à 150 km de mon domicile. Hein. Aucun qui ne. Elle n'a pas du tout tenu compte de mes.
Oui, après s'être engagée à vous présenter des gens qui habitaient voilà. Au moins dans la même ville que vous et pas
dans
loin de chez vous.
Non, pas du tout. Et là, la seconde personne qu'elle m'a présentée, qui. Voilà les commentaires qu'il m'a dit. Je l'ai eu au téléphone et il me dit je me suis fait piéger en signant le contrat. La conseillère m'a montré, elle m'a montré deux profils comme moi, elle l'avait fait, hein, oui. Deux profils dont une pharmacienne. Et quand ce monsieur a voulu prendre contact
avec la pharmacienne, elle était déjà en relation, je suppose.
Voilà, elle n'était plus disponible. Oui. Et il me dit les profils servent d'appât.
Oui. Malheureusement, vous voyez, comme hier, nous avions une dame qui nous appelait avec un mari tombé gravement malade, handicapé, conseillé par l'une de ses amies sur un courtier qui était à Londres. Ce monsieur, qui était un escroc, hein, finalement,
oui.
Parfaitement au courant de la situation de cette dame, une situation quand même très mal en point, hein, avec un monsieur qui était... vraiment handicapé et son handicap nouveau nécessitait des frais importants. Eh bien, oui, cet escroc, il n'a pas hésité à lui.
Il n'a pas hésité.
Ben non, il les a arnaqués de 70 000 euros.
Ah, voilà.
Donc, ce que je rappelle encore ce soir, c'est que malheureusement, il y a dans ce monde des gens qui ont peu de.
Peu scrupuleux.
Ils sont peu scrupuleux, ils n'en ont rien à faire, ils sont prêts
à
exploiter la solitude, par exemple. La solitude qui vraiment est une situation où l'on sait que, voilà, on va pouvoir faire rêver les gens, on va pouvoir d'un seul coup leur faire croire qu'on va les sortir de cette solitude, que ces gens se mettent d'un seul coup. Hein,
c'est un peu manipulé. Enfin, c'est vrai, mais quand j'ai eu donc toutes ces personnes que j'ai eu au téléphone ou les plus de contacts, ils manifestaient le même mécontentement. Et j'ai eu des échanges. Je n'ai pas hésité un instant à lui écrire que les profils n'existaient pas. C'était des profils fantômes. J'ai écrit tout ça, bien sûr que je l'ai écrit. J'ai dit que c'était une situation révoltante, non conforme aux propositions et tout ça. Et les réponses de cette dame, vous devriez être satisfaite car les personnes qu'elle me proposait n'étaient ni de Lyon ni de Paris.
C'est fou. Y avait-il au moins la possibilité qu'on vous rembourse une partie des 1200 euros si ça ne marchait pas?
Alors, non, il n'y avait pas de possibilité. C'est-à-dire que c'était. C'est pour dire que tout est en dépit du bon sens. C'est-à-dire que elle m'envoie un profil avec le nom de, je dis n'importe quoi, de Charles et le descriptif de Jean-Luc. Je lui envoie en suivant un message. Je lui dis, c'est n'importe quoi. Ah, excusez-nous, c'est un bug informatique.
Oui.
Là, récemment, elle m'envoie. Une autre rencontre, une mise en rencontre, en relation avec une personne.
Oui.
Cette personne-là, elle m'a déjà mis en contact en février. Donc, j'ai dit que j'étais dépitée, mais ce sont des mots que j'ai dit, j'étais dépitée, que c'était grotesque cette situation. Elle me représentait, une même personne, elle savait très bien que je lui avais répondu que ce n'était pas, ça ne correspondait pas, ça n'allait pas correspondre avec ça. Et elle me retourne cette personne. Enfin, c'est quand même aberrant. Les personnes que j'ai suggérées, c'est-à-dire que comme je suis restée des mois sans. Là, ça aussi, ça a été les propos d'autres personnes que j'ai eues au téléphone. Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas de nouvelles de cette personne. Jamais elle ne m'appelle, jamais. Voilà, j'ai eu une personne qui me dit, moi, de toute façon, j'ai demandé avoir un rendez-vous avec elle au bureau, et elle lui a répondu, bien sûr, lui aussi, on ne lui propose rien, donc il voulait aller voir, donc au bureau. C'est un bureau dans les Landes. Et parce qu'elle est dans, elle a un bureau à Biarritz, les Landes, Bordeaux. Et je lui ai demandé donc un rendez-vous, qu'elle me montre les profils sur son ordinateur. Elle lui a répondu que ce n'était pas un catalogue. Voilà, donc oui. Il est resté, il m'a dit, je vais aller faire une visite dans les Landes, dans son bureau. Je vais aller, il était furieux.
En payant plus de 1200 euros ou 1600, 1800 euros, on peut être furieux de ne rien obtenir.
C'est même plus, j'avoue que c'est même plus le fait de...
D'avoir payé.
Non, c'est plus ça. C'est passé au-delà.
Qu'on se moque de vous, en fait.
Qu'on se moque complètement. Et j'ai consulté un avocat qui m'a bien conseillé, qui m'a indiqué m'a conseillé de lui adresser un courrier avec quand même des termes pour un dédommagement financier pour manquement au respect des engagements lors de la signature du contrat. Donc, je lui ai envoyé ce courrier par lettre recommandée. Elle m'a répondu, bien sûr, négativement. Et je me dis, c'est quand même, elle est osée. Le service est en partie rendu. Voilà.
Ah, le service est en partie rendu, elle vous a écrit ?
Rendu. Ouais. Voilà, oui, elle me l'a écrit. Donc, tout ça, Et donc, elle voyait quand même, elle a bien vu que quand même les termes que j'avais utilisés sur mon courrier, il y avait quand même des termes juridiques. Donc, elle a bien vu que j'avais dû, je pense, elle n'est pas du tout idiote parce que justement, elle s'exprime avec éloquence, cette dame. Hein. Donc, elle a bien vu que les termes ne venaient pas de moi. Je pouvais pas inventer certains termes judiciaires. Je n'ai pas du tout, je suis pas du tout branchée là-dedans.
Oui.
Et elle m'a dit qu'elle m'avait proposé plusieurs fois, qu'elle m'avait appelé régulièrement, qu'elle m'avait posé plusieurs fois de prendre contact avec elle, de rendez-vous. Bon, bien entendu, je lui ai répondu en suivant que je n'avais aucune trace dans mon journal d'appel, aucune trace de
ces appels,
numéros, voilà, oui. Et ni un message vocal, mais que je demandais un rendez-vous donc dans son bureau à Biarritz. Elle m'a répondu impossible, mon agenda est rempli.
Bah voyons.
Voilà.
Oui, donc parce qu'elle a quand même pignon sur rue à Biarritz, donc ça n'est pas rien. Elle est connue à Biarritz,
oui,
à Bayonne.
Oui, voilà.
Ouais, il ne doit pas y en avoir 36 en plus d'agences comme celle-là. Donc, avis à celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui habitent la région, vous êtes prévenus maintenant.
Oui.
Et je pense que cet entretien, enfin cet échange, va vite revenir aux oreilles de cette dame, ma chère Jeanne. Donc peut-être aurez-vous peut-être plus de réponses dans les jours qui viennent, parce que on ne peut pas se dérober comme ça. Il y a eu le paiement d'une somme quand même importante. À elle, vu la nature du courrier que vous lui avez envoyé, à elle, donc, si elle veut éviter peut-être que vous poussiez plus loin le bouchon, à elle, justement, de venir prouver qu'elle vous a bien appelé, qu'elle vous a sollicité. Or, vous le sauriez si elle vous avait sollicité.
Ah oui, non,
le problème,
non,
je vais vous dire, le problème, c'est que ce type de personnes, je pense qu'ils sont faits d'une certaine manière et d'une telle manière qu'au bout d'un moment, ils pensent vraiment ce qu'ils vous disent. C'est-à-dire qu'ils montent sur leurs grands chevaux en disant « Mais j'ai rempli ma mission, je vous ai appelé, je vous ai sollicité. » Alors qu'elle sait très bien qu'elle ne l'a pas fait.
Voilà, c'est ça.
N'oubliez pas une chose, c'est une posture, ça. Mm. C'est une posture que l'on retrouve dans la société entière, dans n'importe quel business, de gens qui n'ont pas de scrupules, mais qui pensent, et j'ai envie de vous dire, ils s'inspirent du monde actuel, parce que regardez, qui sont aux commandes? Tout. Il y a beaucoup de méchants qui sont aux commandes aujourd'hui. Ceux que j'appelle les méchants sont des gens qui ont peu de scrupules.
Oui.
Et qui font fi de la morale, du respect, et qui sont prêts à marcher sur les autres, en tout cas à les bousiller un petit peu, en tout cas à les écorner ou les blesser au passage, pour grimper, pour s'élever socialement.
Oui. Oui. Oui.
Et malheureusement, j'ai lu, enfin ma femme m'a lu un bouquin cet été assez incroyable, qui n'avait rien à voir, vous voyez, à la base, avec ce dont on parle ce soir. Mais c'était un bouquin sur les anges.
Oui.
Un bouquin très intéressant. Bon, je ne suis pas vraiment croyant, je suis en quête, on va dire, d'un sens, parce que quand même, conscient que tout ça doit avoir un sens, vous voyez ? Ce passage,
oui.
Cette vie,
oui.
Ce que nous sommes. D'ailleurs, j'ai rencontré Laurence hier soir à la sortie d'Europe 1, qui est une fidèle auditrice d'Europe 1 et qui est une voisine, puisqu'elle est juste en face d'Europe 1. Et nous avons eu à ce sujet une discussion qui m'a rappelé cette lecture que ma femme avait faite cet été, une lecture assez longue sur les anges, sur les âmes qui ne quittaient pas ce monde, celles qui quittaient, celles qui revenaient réincarnées pour une mission précise. Je me rappelle par exemple qu'elle évoquait l'auteur, c'était deux femmes dont l'une évoquait que les personnes qui mettent fin à leur jour à un moment en fait mettent fin à cette vie parce qu'elles ont rempli le nombre d'années pour lesquelles elles étaient là et que leur passage
ont rempli leur mission
et que leur passage mission. Quelque part impactait les vies de celles et ceux qui restaient et que tout ça prenait un sens et que une fois morts nous avions un référent qui nous aidait à nous extirper déjà du côté terrestre de la vie que nous venions de mener, parce que visiblement ça n'était pas évident de quitter cette vie puisque certains ne se rendaient pas vraiment compte qu'ils étaient morts. C'était très intéressant, mais tout ça pour arriver. Le but de ce bouquin était de dire que ce passage sur Terre avait un sens, c'était une mission qui, dans l'au-delà, dans cette vie parallèle, amenait quelque chose, amenait une élévation. Vous voyez, nous élever notre âme et de par ce phénomène d'élever notre âme, il y avait une sensation de compréhension, de bien-être, de comme si cette âme s'enrichissait énormément. Et j'en reviens à ce que je vous disais. Dans ce livre, un ange parlait, ouvrez les guillemets, il disait que ici-bas sur Terre, finalement, nous n'étions pas, nous les hommes, comme dans l'au-delà, soumis à des lois divines, au bien, vous voyez, au bon, au sens, mais que tout était permis ici. Bas sur Terre, et que beaucoup d'hommes et de femmes avaient bien compris que tout était permis, et que la moralité, on se la foutait, où je pense, et que finalement, on pouvait faire ce qu'on voulait, ici-bas, on pouvait faire ce qu'on voulait, parce que ça pouvait nous rapporter quelque chose, nous amener quelque chose. Donc, elle faisait état de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui n'ont que foutre de leur prochain, et qui sont prêts à vous marcher sur la tronche pour gagner de l'argent, vous prendre quelque chose, vous heurtez, vous blessez. Et quand vous regardez bien le fonctionnement de ce monde, vous voyez, j'entendais Raphaël tout à l'heure pendant les infos, et je me disais, je voyais 1300 Russes arrêtés ce soir dans la rue, s'élevant contre quoi ? Contre qui ? Contre un milliardaire, un escroc qui s'appelle Poutine, qui s'en est mis plein les fouilles avec ses copains qu'il a placés comme oligarques, en mettant ceux qui le gênaient en prison, n'ayant que foutre de son peuple et étant un escroc, l'escroc number one de ce monde. Et donc, voilà le monde où on est. Et il faut être bien conscient de ça. Combattre tout ça, c'est compliqué. Je pense que c'est par l'intelligence qu'on doit combattre ça, par le bon sens et par, justement, je vous parlais d'une posture tout à l'heure. Face à cette femme qui aura cette posture, ayez bien la posture du bon sens, ma chère Jeanne. Et montrez-lui bien ça, au moins, que le sens, c'est vous qui l'avez.
Et le sens, bien sûr.
Ça aura peut-être peu d'impact sur cette personne qui a peu de scrupules, mais je pense que ça aura au moins la vertu, si vous arrivez à avoir cette posture, qu'elle soit mal un petit moment en se disant comme s'il y avait une glace en face d'elle. Je suis une escroc.
Oui, mais honnêtement, je le pense très sincèrement. Je pense que ces gens-là vivent beaucoup mieux que nous.
Mais bien évidemment, ils vivent bien.
Ils posent beaucoup moins de questions et ce sont des gens complètement différents.
Vous avez raison. Vous avez raison. Ils vivent.
J'ai pas d'espoir. Il y a pas d'espoir de récupérer ces gens-là.
Ils vivent mieux que nous. Je ne dirais pas ça. Parce que en ne se posant pas de questions, on n'évolue pas beaucoup.
Non.
Et cette vie, quand même, terrestre, aussi difficile soit-elle, mais aussi belle soit-elle aussi, parce que, regardez, vous me parliez de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos amis, de votre région. Cette vie est belle. Cette vie nous fait vivre des choses. Enfin, moi, je m'extasie devant un oiseau, vous voyez, un toucan. Je m'extasie devant des vagues. Je m'extasie devant plein de choses, devant un bébé dans une queue ce soir au supermarché.
Mais
parce que, en fait, je pense que ce que ces gens ratent complètement, c'est ça. Ils n'en ont pas conscience, mais finalement, on voit que ça fait des pauvres gens, un peu abrutis, un peu sans relief, un peu incolores, inodores, avec leur petite puissance, là, qui, à un moment ou un autre, se casse la gueule d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai souvent, vraiment, hein, je vous jure, j'ai souvent constaté qu'à un moment, la vie leur rendait d'une manière ou d'une autre. Et parfois, justement, sur des terrains beaucoup plus humains, beaucoup plus sensibles, où ces personnes avaient, par exemple, dans leur vie dans leur vie sentimentale, dans leur vie avec leurs enfants, avaient des déboires qui leur revenait bien comme un boomerang dans la tronche.
Voilà, un boomerang, oui, tout à fait.
Donc, ils vivent mieux matériellement, peut-être un moment, mais on sait, quand on a du sens et qu'on a compris le sens de cette vie, que la richesse ne se résume pas à ce qu'on a dans le porte-monnaie. Enfin, vous voyez, de cette définition-là, on n'en veut pas.
Mais bien sûr, mais après, il n'y a pas que la patte du gain, c'est aussi la mentalité. C'est une personne, c'est ça qui est
évidemment,
en tête.
Évidemment.
C'est tout un ensemble. Il n'y a pas que le gain, c'est sûr que ça c'est ce qui l'intéresse, mais cette indifférence vis-à-vis des gens, ce manque de respect, ça, elle ne l'a pas.
Ce manque de moralité.
Ce manque de
moralité qui fait qu'on ne respecte pas les règles.
Voilà,
mais si vous saviez, dans le monde où on évolue, le nombre de gens qui chaque jour sont blessés par l'injustice, par exemple.
Des agissements.
Mais l'injustice d'être choisi à la place, délaissé sur le côté, alors qu'un autre est choisi sur le... Parce qu'il ressemble sans doute plus au patron qui va le choisir. Oui. Parce que, les cons s'assemblent entre eux, les méchants s'assemblent entre eux et ils se reconnaissent, qu'ils se ressemblent, s'assemblent, dit le dicton. Mais il y a des injustices tous les jours. Et pourquoi cette société va mal aujourd'hui? Parce que c'est devenu la course à posséder, à avoir. Et lorsque certains possèdent de plus en plus, lorsque certains s'octroient des droits comme ça en piétinant les autres. Non, je vais vous dire, cela crée la frustration des plus fragiles d'entre nous. Et les plus fragiles d'entre nous vont se diriger vers la violence pour se venger, vont se diriger vers la violence pour dire non, je ne veux pas ça, je n'accepte pas.
Oui.
Et c'est pourquoi notre société va mal. C'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont frustrés par le fonctionnement. Comment accepter, par exemple, prenons l'exemple de M. Pinault, par exemple, qui a je ne sais pas combien de milliards qui lui servent à quoi? Vous voyez, c'est quelque chose, moi, qui me paraît insensé. Je ne dis pas qu'il faut qu'il distribue à la terre entière, cet homme-là. Mais il y a tellement de non-sens dans tout un tas de choses de ce monde, mais ça en revient à ce que disait cet ange. Ici-bas,
il y a un sens.
Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Les hommes, vous faites ce que vous voulez,
ce que bon vous semble.
Oui. Et si vous avez décidé
de... d'aller là-bas, de changer
Non, 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 parce que ça ne marche pas comme ça. Ça serait trop facile.
Non,
vous
non,
savez,
non.
Tous ces gens, tous ces hommes qui ont écrit des livres sur Dieu, hein, et qui ont créé quelque part les religions, je me dis souvent, mais enfin, Dieu, si Dieu existe, croyez-vous vraiment qu'il soit à la portée, à notre portée, à nous, petits hommes que nous sommes? Vous voyez, je veux dire, c'est, l'idée de Dieu est quelque chose de trop gigantesque, trop grand, pour que nous, simples terrestres que nous sommes, nous puissions le toucher même du bout des doigts. Donc, il y a tout un tas de choses qui, moi, me semblent insensées, et je ne suis pas le seul, mais... Et c'est ce pourquoi je pense que notre passage ici, voilà, et quand même, on peut le transformer en quelque chose de riche, parce que comprendre en permanence, sentir l'autre, percevoir ce qu'il dit, s'enrichir de ce qu'il dit, l'enrichir de ce que vous dites, eh bien, moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qui fait partie du bonheur quotidien,
bien sûr, parmi tant
d'autres, parmi les vagues, parmi le sourire d'un enfant, parmi le fait de faire un travail qui peut nous plaire, où on va tirer une certaine satisfaction. Il faut s'habituer, malheureusement, accepter que comme il n'y a pas de règles, pas de loi, l'injustice fait partie de notre quotidien.
Elle existe, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Et vous en êtes ce soir, Jeanne.
Victime,
oui. Mais ça n'est pas pour ça qu'il faut dire non. Vous voyez, cette personne, je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il faut que vous poussiez le plus loin possible votre contestation.
Mais honnêtement, je le pense, c'est une impasse.
Ce sera une impasse, peut-être, vous ne serez pas remboursé. Mais par là, en fait, vous allez un peu l'emmerder.
Oui, bien sûr. Mais après, je vais arrêter là. Mais c'est vrai que j'ai quand même, je lui ai adressé des courriers quand même assez. Enfin, pour moi, c'était honnête et c'était la réalité. Elle m'a dit que de missiles, elle me met quand même, et qu'elle m'a taxé de calomnie. Et puis là, j'ai bien précisé, je lui ai dit reprenez tous mes messages et vous ne pourrez que constater. Là, je lis ce que je lui ai mis, parce que je l'ai sous les yeux. Reprenez tous mes messages et vous ne pourrez que constater et reconnaître la limpidité, la simplicité de ma démarche. Rencontrer une personne très proche de mon domicile. Soyez aussi clair que moi et exprimez-vous sur ce sujet en évitant de me préciser que je devrais être satisfaite par ces personnes qui ne résident ni à Lyon ni à Paris. Et je lui ai dit, je relate tout simplement les faits authentiques et concrets sans vouloir. Je suis convaincue que mes propos ne vous surprennent pas car c'est la stricte vérité et malheureusement la triste réalité. Et là, elle n'a rien répondu. Et je lui ai dit, c'est vrai que j'ignorais. J'imagine parfaitement qu'elle regrette mon passage dans son agence.
Mais je vais vous dire quelque chose, Jeanne. Je pense même que, comme vous êtes d'une extrême bonne foi, vous auriez signé ce contrat si cette femme avait eu la franchise même de vous dire que votre demande n'était peut-être pas évidente, qu'elle ne voyait pas, a priori, tout de suite une dizaine ou une quinzaine de personnes, mais peut-être reconnaître qu'il y avait trois ou quatre personnes dans cette région et qu'on allait essayer. Vous voyez, si elle vous avait tenu un discours sensé et réel, c'est-à-dire plantant le vrai décor, que ça allait être compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, vous ne lui en voudriez
peut-être.
Pas.
Non, pas du tout.
Voilà.
Parce qu'elle aurait été claire.
Et voilà, et on a l'explication de votre frustration et du fait que vous avez ce sentiment de vous être fait avoir. Parce qu'elle vous a vendu un peu ça comme une vendeuse de tapis, en fait.
Oui, mais moi, et puis je vous dis, là, j'ai passé le stade, ça y est. Quand je contacte, les gens me contactent, c'est le même sentiment, la même impression. Là, il y a une personne qui m'a envoyé une mise en relation avec le 3 août. Je n'ai pas donné suite parce que c'était à 200 km de la maison, Donc j'ai fait exprès, j'ai envoyé un petit message à ce monsieur le 14 septembre en lui demandant ses intentions parce qu'il ne m'avait pas contacté. Et ça ne m'intéressait pas, je voulais surtout avoir un message écrit.
Oui.
Et ce monsieur m'a répondu, j'avais répondu à Madame Untel début août que je ne souhaitais pas vous rencontrer. Je n'ai eu aucun message de sa part par la suite. Visiblement, elle n'a pas tenu compte de ce souhait. J'en suis sincèrement désolée pour vous. Je ne suis pas satisfait de la façon dont fonctionne cette agence. Il n'est pas tenu compte de nos attentes, ne serait-ce que sur les critères géographiques. C'est honteux. Voilà le message de ce monsieur qui m'a adressé ça à mi-septembre.
Tout le monde paraît floué dans cette histoire.
Tout le monde, c'est pour ça que je parle de moi, mais je suis un peu le porte-parole. Et je dis qu'il n'y a que moi qui bouge, mais c'est incroyable. Et ce qui est quand même révoltant, c'est se dire que c'est une personne qui vole, qui n'a pas de morale, qui est une personne qui, pour moi, c'est désolant d'être comme ça, et qui continue, comme vous dites, il y a des injustices, mais qui continue à fonctionner, et on la laisse impunément, comme ça, continuer à faire son petit trafic, parce que c'est du trafic, c'est de l'escroquerie, hein, c'est de l'escroquerie. Elle sait pertinemment que ce qu'on lui demande, elle ne pourra pas. Il n'y a pas les prestations. C'est pas vrai, il n'y a personne. Et elle sait pertinemment, mais quand même, elle ment ouvertement, sans vergogne, et elle encaisse l'échec. Et elle sait pertinemment qu'elle ne pourra pas nous satisfaire. Moi, c'est une chose, mais les autres, pareil.
Et ça va continuer si personne ne dénonce cela. Ça va continuer. La seule chose que je vous recommande, mais vous paraissez très calme, c'est que la colère ne vous empoisonne pas, mais vous ne semblez pas en colère. C'est fini. Je trouve que vous êtes très calme et maintenant vous êtes beaucoup plus dangereuse pour elle. Croyez-moi. Je vous souhaite bon courage en tout cas,
ma chère Jeanne. Oui, je vous remercie infiniment.
Je vous remercie,
puis bon courage à vous aussi.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse,
au revoir. Vous êtes nombreux à écrire à propos de ce que j'ai pu dire à propos de Poutine. Oui, vous partagez bien évidemment la vision de ce Poutine, de ce fou sanguinaire. Mais vous êtes à raconter que les Russes qui manifestent maintenant pour le refus et la guerre d'agression contre l'Ukraine, c'est uniquement parce qu'ils prennent peur pour eux. Mais j'ai envie de vous dire, imaginez-vous dans un pays comme celui-ci ou dans un pays comme l'Iran, je vous en ai parlé cette semaine, finalement on peut faire le parallèle entre ces deux pays où des cinglés en fait sont à la tête, commandent, décident pour toute une population, pour toute une jeunesse qui n'a pas envie de porter des burkas, qui a envie de faire la fête et danser sur Daft Punk en Iran. Pareil en Russie. En plus, en Russie, on a dansé depuis longtemps sur la bonne vibe française. Et puis aujourd'hui, on demande à tous ces gens d'aller se battre, de faire la guerre. Mettez-vous une seconde à la place de ces jeunes Iraniennes, de ces jeunes Iraniens. Mettez-vous à la place de ces Russes. Et peut-être cela vous évitera de penser que les Russes ne pensent qu'à eux. On accueille Bertrand maintenant au 39-21. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Oula, je vous entends mal là.
Comme je suis à l'étage chez moi là.
Ah, c'est voilà. Très bien. Deux, vous étiez un petit peu tassé là depuis que vous attendiez, non?
Ouais.
Bonsoir. Vous m'appelez d'où, Bertrand?
J'appelle de l'Essonne, en région
parisienne. De l'Essonne, d'accord. Et quel âge avez-vous?
58 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi?
Je me permets de vous téléphoner parce que voilà, le 20 septembre 2022, ça fait 2 ans que mon fils est décédé.
Oui.
Que voilà, je me permettais d'appeler déjà, c'était pour sa mémoire et pour pousser un petit coup de gueule et pour que ce qui lui est arrivé n'arrive pas à d'autres enfants, malheureusement. Donc, pour être simple, mon enfant était autiste et épileptique. Donc, nous l'avions élevé à la maison avec ma femme jusqu'à son âge adulte, jusqu'à ses 20 ans.
Oui.
On a trouvé une structure pour lui. On a eu un coup de chance parce que les structures pour ses enfants, pour trouver une place, c'est très difficile. On a eu la chance de le placer. On l'a placé dans cette structure qui était neuve, toute neuve. Donc ça nous a un peu fait, ça nous a permis de souffler un peu.
Bien sûr.
Donc au début, c'était bien. On allait là-bas le voir régulièrement. Et au fil du temps, on s'est aperçu que, si vous voulez, moi et ma femme, on allait tous les dimanches après-midi, et on s'apercevait de choses et d'autres, je dirais, qui n'allaient pas, quoi. Donc, à chaque fois, on leur disait, faites attention, c'est un enfant, il est épileptique, il peut faire une crise à n'importe quel moment, tomber par terre, ou pour manger, il faut qu'il soit accompagné. Donc, à chaque fois, on rabâchait, on était un peu, si je puis dire, les mal-aimés, quoi. Et donc, à chaque fois, je leur disais, faites attention à ça, faites attention à la porte, parce que tu vois, avec les portes, ils pouvaient se coincer les doigts. On me disait, oui, on va faire intervenir quelqu'un pour faire la réparation. Je repassais la semaine d'après, c'était toujours pas fait. Donc, à un moment donné, c'était moi qui allais chercher mes outils dans la voiture pour faire les petits travaux. Pour enlever deux charnières sur une étagère qui allait tomber sur sa tête et qui allait faire des dommages. Quoi. Mm-hmm. Et le 20 septembre, le 11 septembre 2020, tout bascule, on nous appelle en urgence, comme quoi il a été transféré aux urgences. Il avait pris de la nourriture avec sa main, il l'avait mis dans la bouche et il a fait une fausse route et il s'est étouffé. Donc ils ont appelé le SAMU, ils ont appelé les pompiers. Tout ça s'enchaîne derrière. Donc pour moi c'est une faute d'inattention. Tout s'enchaîne derrière, parce que juste une petite aparté, faut savoir que dans ce genre de structure, il y a deux soignants pour 12 adultes.
Oui.
Et on nous a tout le temps dit, c'est la loi, on est dans la loi, c'est deux personnes, deux soignants pour 12 adultes. Parfois, on arrivait le dimanche, il n'y avait qu'une personne. Parfois, on arrivait, il n'y avait personne. On attendait pendant 20 minutes. Mon fils, il était livré lui-même, comme les autres enfants. Et au bout de 20 minutes, quelqu'un arrivait. Donc moi, je poussais un peu une violente en disant, mais vous ne vous rendez pas compte, comme mon fils, il fait des crises d'épilepsie, s'il en avait fait une dans sa chambre, qu'est-ce qui serait passé? 20 minutes après, c'était trop tard.
Et on vous répondait quoi quand vous disiez ça?
C'est pas de notre faute. Dans votre service, il manque du personnel. Donc on nous a appelés pour du renfort, pour aller les aider. Voilà ce qu'on nous répondait. Donc, on avait la peur au ventre. Donc, on avait entrepris les démarches avec ma femme de changer de structure. Donc, on avait commencé, on avait des contacts. Malheureusement, le drame est arrivé, tout est tombé à l'eau. Donc, par la suite, on a déposé plainte à la police, parce que pour nous, c'était pas un accident, c'était une faute d'inattention, une faute de surveillance.
Une faute professionnelle.
Oui, qui a amené à ce drame, quoi.
Oui, oui.
Donc, on a déposé plainte en octobre 2020, et stupéfaction, en octobre 2021, je suis sur la route. Je rentre à mon domicile, j'ai un coup de téléphone en numéro masqué, je décroche. Et c'est une dame charmante, capitaine de la police, qui m'annonce, écoutez bien, qui m'annonce par téléphone que ma plainte a été classée sans suite. Je suis en voiture. Vous imaginez un peu le coup de massue que ça me fait sur la tête à ce moment-là. Donc, c'est une dame très charmante. Elle me dit, je suis désolé, mais c'est les nouvelles directives qu'on nous a données.
Les nouvelles directives, c'est-à-dire d'annoncer par téléphone, c'est ça?
Oui, vous rendez compte, parce qu'avant, pour une plainte, on recevait un courrier à la maison. Et c'est une dame très charmante qui m'a dit, je suis désolé, c'est la première fois que je fais ça. Et même pour nous, c'est pour vous annoncer une chose pareille. Donc on a un petit peu discuté, donc après on l'a rencontrée. Donc elle nous a expliqué, donc il n'y avait pour la procureure, il n'y avait pas suffisamment de preuves ou de choses pour tirer plus loin.
C'est-à-dire qu'en gros, la police n'a pas prouvé que...
Non, moi, je pense que la police a bien fait son travail, mais que, voilà, quoi, ils sont, je pense que là où il était, ils sont tous concertés pour dire tous la même chose, que c'était pas un manque de surveillance. Nous, on a juste déposé plainte et on nous a jamais convoqué derrière. Donc, voilà, que l'objet de mon appel, c'était pour pas que ça arrive à d'autres personnes. Sachant que j'avais un avocat, je lui ai demandé à chaque fois d'essayer d'aller voir pour le dossier. Il m'a répondu oui, je vais aller voir. J'avais pas de nouvelles, je l'ai relancé au moins 20 fois, j'ai jamais eu de réponse. Et voilà, je trouve que ça est inadmissible que déjà qu'on nous prévienne par téléphone.
Oui, qu'on vous prévienne par téléphone et qu'on ne se donne pas la peine au moins de vous expliquer les fondements de cette décision, quoi.
On nous a rien dit. Il y avait un dossier. Elle avait le dossier devant elle. Elle a dit le dossier, je peux pas vous le donner. C'est la loi. Voilà. Conclusion, c'est qu'il n'y a pas. Donc, elle m'a dit le dossier, il est au tribunal. Il faut passer par un avocat, il faut payer un avocat pour qu'il aille chercher le dossier.
Pour que vous puissiez le consulter. Ça, c'est peut-être. Cet officier de police judiciaire vous a sans doute dit vraiment la vérité hein, à ce niveau-là.
Oui, bien sûr. Mais déjà, ça, bon, il y a eu une décision comme ça. Je trouve ça un peu d'humilité. Peut-être parce que c'est mon enfant. Si je puis dire. Et je pense que si dans ces centres-là, il y avait suffisamment de personnel, s'ils étaient suffisamment attentionnés, si les gens étaient bien suivis, s'il n'y avait pas de... Je pense qu'on ne serait pas arrivé là, quoi.
À la base, Bertrand, ce que vous avez constaté quand votre enfant était là-bas, c'est qu'à de nombreuses reprises... Il n'y avait pas assez de personnel, visiblement, puisque vous l'avez trouvé plusieurs fois seul, m'avez-vous dit.
Oui, plusieurs fois, oui. Et puis, il y avait aussi dans sa chambre, il y avait des choses qui me faisaient peur. Après, je ne pouvais pas partir en me disant, mais si jamais il y a la porte, elle lui tombe sur le coin de la tête. Donc, je prenais des photos, je leur disais, faites attention, ça, faut l'enlever, parce que si jamais il tire dessus, il se la prend sur le coin, il se crève un œil, il dit je revenais une semaine après, il n'y avait rien de fait.
Oui.
Vous vous rendez compte? Là, pour mon fils...
Comment vous expliquez ça, en fait? C'est le manque de budget dans ces centres d'accueil, comme ça, pour ces enfants?
Oui.
C'est quoi?
Oui.
C'est qu'à un moment, il n'y a plus d'argent? Parce que manque de personnel, conditions de sécurité...
Si je puis dire, c'est qu'on nous disait, c'est qu'à chaque fois on nous disait non, la loi stipule que deux personnes pour 12 adultes, c'est suffisant.
Ah, c'est deux personnes pour 12 adultes?
Oui.
Ah, j'avais compris, pour deux adultes.
Non, 12.
12.
Donc il y a...
Il faut qu'elles soient en forme, hein, ces deux personnes.
Bah oui, puis surtout, ouais, c'est deux aides-soignantes. Bon, en plus, je dirais, de la structure, bon, il y a l'infirmière qui est là pour les médicaments. C'est deux aides-soignantes, donc elles ne sont pas... Dans ces deux, quand elles sont en pleine forme. Mais s'il y en a une qui en arrêt maladie ou quoi que ce soit, le jour J, voilà, quoi. Donc, c'était chaud, quoi. Il y avait des jours où je partais de là-bas avec ma femme, on était en stress.
Très inquiet, oui.
Très inquiet, j'avais toujours la peur du coup de téléphone en me disant ça, mais malheureusement, la seule fois qu'ils nous ont appelé, c'était pour nous dire qu'il était parti aux urgences, voilà, quoi. Donc, Et puis là, ça fait 2 ans, on est livré à nous-mêmes, on n'a plus de nouvelles, plus rien. Oui, ça passe à autre chose, quoi.
Vous pensez que c'est ça? Ils sont passés à autre chose?
Bah oui, je pense qu'ils ont oublié. Ça fait 2 ans qu'il y a eu le décès, donc je pense que sa chambre a été prise.
Ah bah c'est sûr, c'est certain. Ça fait longtemps.
Il y a des listes d'attente phénoménales et voilà quoi. Et on a été vraiment, pour vous dire, on a même écrit à la présidente de la République, c'est redescendu jusqu'au. On a été aidé par au niveau financier, on n'a rien eu, même par la sécurité sociale où pour un décès, on a le droit à une aide. Là, j'ai appelé la sécurité sociale qui m'a dit non, vous n'avez pas le droit, parce que comme votre fils, il n'a jamais travaillé.
Une aide pour l'inhumation, vous voulez dire?
Oui, pour l'aide, c'était de l'ordre de 3700 euros.
Oui.
On m'a dit non, vous n'avez pas le droit à ça, parce que votre fils n'a jamais travaillé.
Mais oui, le pauvre.
Ben, on est contre. Il fait, ouais, ben, il est handicapé, donc il était autiste, donc travailler. Donc voilà, il est parti à l'âge de 26 ans. Donc.
Il est certain que pour vous, c'est.
Ah, c'est même pour ma
très
fille,
difficile.
Ouais, c'est très difficile pour ma femme, pour ma fille. On se serre les coudes, on est heureusement, parce qu'il y a des. Franchement, c'est. À vivre, je ne le souhaite à personne, ça c'est sûr. Et donc, c'est pour ça que je voulais alerter sur. Parce que c'est des choses qu'on ne parle pas à la télé. Mais. Voilà, au quotidien,
c'est un cas isolé où vous avez. Est-ce que depuis 2 ans, vous avez pu remarquer que c'était arrivé ailleurs en France? Parce que visiblement, cet établissement-là, peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'il y a-t-il eu d'autres incidents graves sans obligatoirement qu'il y ait. Que ça arrive jusqu'à un décès. Est-ce que vous avez eu vent de ça?
Non. Même dans les journaux. Et puis on m'a dit que porter plainte contre une structure médicale ou contre le monde de la médecine, c'est même. La police m'a dit, c'est là vous attaquez un mur.
C'est compliqué, c'est certain.
C'est très 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 compliqué. Donc même
partant du principe, si vous voulez, que dans ces établissements où l'on soigne, où des personnes arrivent en situation critique, il y a obligatoirement une. Je ne vais pas parler de clémence, mais vous voyez, il y a quand même des circonstances particulières. C'est-à-dire qu'il y a toujours le qui dit soin. 10 situations où le niveau de risque est plus élevé que dans une autre situation. Donc, je pense que ça résonne, cette décision de ne pas condamner cet établissement va dans ce sens-là. C'est-à-dire que, voilà, dans ce type d'établissement, on accueille des enfants qu'il faut surveiller vraiment 24 sur 24, pratiquement, hein. Et que on sait que des situations peuvent échapper au contrôle de celles et ceux qui sont employés. En plus de ça, on parle de la responsabilité de celles et ceux qui sont employés. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait se retourner éventuellement sur un salarié qui. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est difficile moralement, vous voyez. Je pense que dans votre affaire, la faute professionnelle n'a pas été reconnue.
Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas
une faute professionnelle avérée à 200%, vous voyez.
Ce qu'il y a, c'est que moi, dans ma plainte, c'était une plainte quand même de 4 pages. Donc, j'ai eu des choses à dire. Mais on m'a pas donné l'occasion d'apporter d'autres éléments comme des photos. Des choses comme ça, pour accréditer cette thèse. Quoi. Parce que nous, on allait le voir tous les dimanches après-midi, donc à chaque fois qu'on allait là-bas, à chaque fois, moi je trouvais, comme c'est mon fils, c'est normal, je tenais à sa santé,
bien sûr,
avant tout.
Bien sûr.
Et à chaque fois, on relevait, il y avait des choses qui étaient pas normales. Donc, on leur disait, donc à un moment donné, on était les mal-aimés, parce qu'on était peut-être les seuls parents qui venaient voir leur fils toutes les semaines.
Oui, mais au final, vous voyez bien, Bertrand, que l'inquiétude que vous aviez, l'angoisse que vous aviez chaque fois que vous partiez, l'inquiétude qui était justifiée par des détails auxquels qui vous sautaient aux yeux, elle était justifiée, parce qu'au final, c'est passé ce que vous redoutiez. Donc, c'est là où, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, le sentiment qui vous habite est en relation avec ça. C'est-à-dire que vous avez prévenu à plusieurs reprises, vous avez dit « attention, ce sont des enfants qu'il faut surveiller parce que épileptiques, parce qu'il peut arriver tout un tas de choses, et qu'il arrive finalement ce que vous aviez craint au plus haut point. Et puis, on vous oppose à ça un classement. Voilà. Et puis, personne ne porte la responsabilité de la mort de cet enfant. Et puis, on vous dit rentrez chez vous. Il n'y a plus rien à voir. Voilà, au revoir.
Oui, au revoir, monsieur. Bonne continuation.
Voilà. Bonne continuation. Démerdez-vous.
Voilà.
Et je comprends votre désarroi complètement. Mais comme vous l'avez dit, c'est le pot de fer contre le pot de terre, là. Parce que je pense même jusqu'à penser que s'il y a eu un fonctionnaire de police qui allait dans votre sens, dans le fait de constater à la lecture de votre plainte que vous étiez inquiet depuis longtemps, que vous avez noté. Bon, même un fonctionnaire de police, je pense qu'il ne peut pas faire pencher le dossier pour vous. Vous voyez, la balance pour vous. C'est parce qu'on est dans des situations à risque.
Parce que le problème, c'est que moi, je n'ai pas été auditionné. Nous, le problème, c'est que la procureure, s'est basée sur notre feuille papier, quoi, sur notre plainte. On n'a pas été auditionné, et les autres parties ont toutes été auditionnées. Donc, elles ont toutes dit la même chose. Et voilà, quoi. Et donc, ils ont dû dire non, nous, on n'a pas fauté, on a fait ça, on était dans les règles, on était dans les clous.
Ils n'étaient pas dans les clous. Et je vais vous dire, là, Mathilde nous envoie un SMS au 739-21. Elle dit « Je travaillais en EHPAD, une aide-soignante pour 20 résidents. L'aide-soignante a trouvé une résidente pendue au matin. Elle culpabilise. Mais que faire seule ? Elle effectuait un change d'une autre pensionnaire ailleurs. » Bon, se résume dans ce SMS et ce que vous nous racontez ce soir, se résume le manque d'argent, le manque de moyens, maintenant qu'on attribue à l'hôpital en règle générale. On continue de mal payer même les soignants, les aides-soignants, les médecins. Tout se délabre. Donc, ça a des conséquences dramatiques et la mort de votre enfant est une des conséquences. Et voilà le triste constat que l'on peut faire. Sauf que là, on entend votre voix, votre vie, elle est réelle, votre peine, elle est réelle. Et puis là, on réalise que ce système-là provoque ce type de situation et ce type de peine et ce type de situation révoltante, finalement. Parce que la mort de cet enfant, elle aurait pu être largement
évitée.
Donc,
c'est parce que nous, quand on l'avait avec nous pendant les vacances, on le surveillait, il mangeait avec nous, il n'y a jamais eu de soucis parce qu'on était derrière lui, on savait comment il était, et en plus, il savait comment il était. Donc, à chaque fois, il y a des dimanches soirs où il allait dîner, donc on le regardait faire, il allait s'asseoir, on le voyait, il était souriant, on partait, et là, on ne peut pas imaginer qu'il saute sur de la viande et qu'il met ça dans la bouche sans que personne ne voie. Si quelqu'un l'avait vu, il lui aurait retiré la main ou il aurait agi tout de suite.
Ouais.
Là, il a eu le temps quand même de prendre la viande, de le mettre dans de l'ingurgité, de faire une fausse route et d'aller et tomber dans la chambre. Il y a quand même 20 mètres.
Ouais. Je vous souhaite plein de courage en tout cas.
Merci
Bertrand, ouais. À vous, à votre femme, à votre fille.
Ça fera bouger les choses.
Ouais, et puis il va vous falloir vivre avec ça. Courage à vous, courage à vous.
Merci Olivier.
Et merci, je vous en prie. Bonne nuit Bertrand, au revoir.
Merci, soirée, bonne nuit, au revoir.
Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'étais ravi de passer ce moment avec vous, comme d'habitude. On se retrouve tout à l'heure, puisqu'il est bientôt 1h du matin. Dormez bien, faites de beaux rêves. Et puis, n'oubliez pas que la vie est belle. Je vous embrasse, à demain, salut.